En fait, le frère devrait continuer, mais il a dit, je dois continuer. En tout cas, d'après le résumé, pour avoir de la communion. Le titre de ce résumé, ou de cette outline, le résumé est le dessein immuable de Dieu. Dieu a un plan, un dessein. Comme chacun d'entre nous, les hommes, tu ne peux pas simplement, en tant qu'homme, vivre. Tu ne peux pas simplement vivre en tant qu'homme, sans but, sans plan, et tu vis simplement. C'est impossible. Je connais personne. Je connais aucune de telles personnes ou d'hommes en ordre. Ils ont tous un plan. Ou bien, Philippe, est-ce que tu as un plan? Bien sûr, tu ne vis pas sans but. Est-ce que tu penses que notre Dieu n'a pas de but? Dieu a aussi un but, et encore bien plus haut que notre but humain. Il est Dieu. Il est bien plus haut que nous les hommes. Ésaïe a dit, son chemin est plus haut que son chemin et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Bien sûr, c'est normal. Et si nous ne connaissons pas le plan de Dieu, alors nous faisons quelque chose pour lui. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu aimerait avoir. Bien sûr, d'annoncer l'évangile, c'est bien. C'est une partie, mais c'est seulement le commencement du plan de Dieu pour le salut des hommes. Et d'après le salut, qu'est-ce qui vient? Est-ce que ça suffit, ça assez? Non, sûrement pas. Dieu a un plan merveilleux, bien plus élevé que nos pensées. Bien plus élevé. Et c'est pour ça, c'est très important que nous reconnaissions la volonté de Dieu. Si nous ne le reconnaissons pas, alors nous faisons seulement quelque chose pour les hommes. C'est pour ça qu'il y a tant de confusion parmi nous, les croyants. Chacun fait ce qu'il veut. Dieu a dit à son peuple, après qu'ils étaient là, qu'ils sont entrés dans le bon pays, à partir de ce jour, vous ne devez pas chacun faire d'après ce qui est juste dans leurs yeux, à leurs yeux. Ils ne doivent pas faire cela, parce que sinon, à la fin, Dieu ne parvient pas à son but. C'est pour ça que c'est bon, dans ce temps, encore une fois, clairement, de voir qu'est-ce qui est en fait le plan de Dieu. On dit, ah, ok, de bâtir l'église. Mais à quoi est-ce que ça ressemble? Et qu'est-ce que c'est? Seulement l'Église afin que nous ayons un bon moment le dimanche, d'entendre un message, chanter quelques chants, avoir quelques prières, chacun va à la maison. Pour toi, peut-être, c'est peut-être bien. Et bien, mais est-ce que tu penses, pour Dieu, c'est assez bon? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Peut-être que nous n'avons jamais demandé qu'est-ce que Dieu pense de cela. Oui. Mais personne ne se pose la question. Chacun fait ce qu'il nous plaît. Et quel besoin j'ai? Et après, oui, si je suis satisfait, alors c'est en ordre. Alors je rentre à la maison. J'ai accompli mon devoir une fois par semaine. Est-ce que c'est assez bon pour Dieu? Sûrement pas. Rappelez-vous, dans Matthieu 7, le Seigneur a dit, pas chacun qui me dira Seigneur, Seigneur, entrera dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font la volonté du Père dans le ciel, celui qui ne fait pas sa volonté, si nous ne faisons pas cela, alors c'est égal ce que nous faisons, nous ne rentrons pas. Sûrement pas. Alors le Seigneur a continué et a expliqué. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas annoncé dans ton nom? Est-ce que tu penses t'annoncer c'est mauvais? Non, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. chacun annonce qu'est son fardeau. Il y a tant de prédicateurs et chacun annonce ce qu'il pense qui est juste. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de bonnes œuvres? N'avons-nous pas fait de bonnes œuvres? Des œuvres caritatives? Des bonnes œuvres? Regarde, le Seigneur a dit aux sept églises, je connais vos œuvres. Ça veut dire les œuvres sont pour le Seigneur, ce n'est pas le but. Et ce n'est pas ce qui leur satisfait. Certains sont des bonnes œuvres et certaines ne sont pas si bonnes. Mais, bien ou pas bonnes, ou mauvaises, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ou Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas dans ton nom chassé des démons? Alors le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Ce serait terrible. Parce que tout ce que nous faisons, nous pensons que c'est bon, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Comme j'ai dit, si tu fais de bonnes choses pour ton entreprise, mais ce n'est pas ce que l'entreprise aimerait avoir, alors même si c'était si bon ce que tu as fait, tu vas perdre ton travail. Tu te perds ton poste. Et tu ne peux pas dire « mais ». Il n'y a pas de « mais ». Pour le Seigneur, il n'y a pas de « mais ». Et c'est pour ça que nous devons demander au Seigneur « quelle est ta volonté ?» Ta volonté s'accomplit sur terre, qu'est-ce que c'est ? J'ai souvent prié au Seigneur. Si tu ne me montres pas ce qu'est ta volonté, comment est-ce que je dois savoir ? Est-ce que je dois penser moi-même? Si le Seigneur ne montre pas, parce que nous n'avons pas demandé, et le Seigneur ne force personne. Depuis Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, le Seigneur n'a jamais forcé quelqu'un. Il nous a donné une volonté libre. Même Adam et Ève, le Seigneur a dit, « Cet arbre, vous pouvez en manger. » Mais de celui-là, vous ne devez pas en manger. Mais le Seigneur ne les a pas forcés. Ils doivent choisir. Nous devons choisir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux choisir? Si tu ne sais pas, quelle est la lumière? Qu'est-ce que tu dois choisir? La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? L'Épître aux Hébreux nous montre si clairement que le Seigneur est venu, il m'a préparé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Et sur cette terre, le Seigneur n'a jamais fait quelque chose qui n'était pas la volonté du Père. Souvent, est-ce qu'il n'a pas dit « Votre temps est toujours là, mais mon temps n'est pas toujours là. » Parce qu'il fait seulement ce que le Père dit. Et pas simplement ce que le Père dit, mais aussi ce que le Père a fait en lui. Et il dit même les paroles que je vous dis. Je ne les lis pas moi, mais le Père en moi et le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que vous pouvez vous représenter cela, un tel homme sur cette terre? La volonté du Père est si importante et c'est pour ça le premier point dans ce résumé. Le plan et l'appel de Dieu sont irrévocables. Combien de fois est-ce que tu as changé ton opinion, ton avis, Thomas? Souvent. Souvent. Et tu ne sais même pas combien de fois, peut-être trop souvent. Nous, les hommes, on pense, oui, je fais ça, et après, je change mon idée demain. Demain. Ah, tu es... T'as pas terminé? Ah, ça fait pas longtemps que t'as terminé? Ça fait combien de fois que t'as changé de travail, Sarah? En tout cas, 3 entreprises. 2 fois, et maintenant, c'est la troisième. Ton troisième employeur. En tout cas, 3 fois, tu as changé. ton travail. De cette entreprise à cette entreprise à cette entreprise. Et au début, tu pensais bien. Après, ce n'était pas si bon. Alors, tu vas à la deuxième entreprise. Et ce n'était pas si bien. Et maintenant, tu es dans la troisième entreprise et tu penses, est-ce que c'est bien? Attends encore un peu. Attends encore un peu. Nous changeons tout le temps, en tout temps. Mais Dieu ne change pas. C'est pas un homme qui ment et ce n'est pas non plus un homme qui fait des choses irrévocables et qui change, qui regrette. Est-ce que tu peux te représenter? Il t'a sauvé et tu as fait une erreur et Dieu a changé d'opinion. Il a dit, ah, ok, alors Christian, maintenant tu es. Ah, tu n'es plus sauvé. Il a changé son opinion. Est-ce que tu peux représenter cela? Si Dieu change son opinion avec nous? Oh Seigneur. Alors je suis perdu, je vous dis. Alors je suis perdu. Mais Dieu soit remercié, il ne change son plan jamais, même depuis fondation du monde, il nous a déjà connus et choisis. Et il ne change pas son idée. Mais il n'en vient pas simplement du salut, mais il en vient de bien plus. Dieu, dans l'Écriture, a un merveilleux plan, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour lui, il aimerait avoir quelque chose. Et les versets, vous pouvez les lire vous-même, que Dieu, dans tous ces versets, et encore bien plus, nous voyons Dieu change son appel, son opinion. Il ne change pas parce que sinon à la fin on a de grands problèmes. Avant la fondation du monde, il a choisi Christian et après, il a dit, ah non, non, j'ai mal choisi. J'aimerais plus avoir Christian. Qu'est-ce que tu penses? Si Dieu est ainsi comme pour nous, qui change toujours son opinion, c'est pour ça que il dit le Seigneur, c'est pas un homme qui change son avis, qui regrette son plan, qui fait des erreurs. Est-ce que tu penses que Dieu fait des erreurs comme nous? Ce serait terrible. L'Épître aux Hébreux nous dit, le salut qu'il a fait, c'est un salut éternel. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et beaucoup d'hommes, ou de certains, ou beaucoup, croient que le salut, on peut le perdre. Et après, ce n'est plus un salut éternel. Nous disons que c'est un salut junior. Il est monté, tu es sauvé, ensuite, tu n'es plus sauvé. Et combien de fois? Tu dois être né de nouveau. Tu as une fille, une merveilleuse fille. Elle est née. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Né, c'est né. On ne peut plus revenir en arrière. Nous sommes à nouveau, nous sommes nés de nouveau de Dieu. Et Dieu a un chemin. De nous amener à la perfection. Et même si seulement après, c'est par une punition. Mais d'une certaine manière, il va l'accomplir avec nous. Dieu a un chemin. Mais tu dois choisir quel chemin est-ce que tu aimerais avoir. Le chemin de la récompense dans le royaume des 1000 ans, de régner avec lui, d'hériter le royaume, ou est-ce que tu aimerais aller par un temps de punition? C'est mieux que Dieu nous châtie aujourd'hui. Celui qui l'aime, il le châtie afin que nous ayons part à sa sainteté pour qu'obtenir les fruits paisibles de justice. Ça, c'est le chemin normal. Mais si je ne suis pas prêt, alors, quand le Seigneur reviendra, je serai jeté dans les ténèbres extérieures pour un moment, pas pour toujours. Et je dois laisser mon passer mon tour. Tu connais ça à l'école, n'est-ce pas? C'est vraiment ainsi. Alors nous devons répéter, refaire quelque chose. Les 10 vierges, elles doivent encore acheter de l'huile, mais ne sont pas qualifiées pour le festin des noces. Alors où est-ce qu'elles vont? Nous devons choisir. Mais Dieu, il est Dieu et il ne change jamais d'opinion. Une fois sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Si le salut est un don, est-ce que tu as reçu un cadeau? Tu as déjà reçu un cadeau? Aujourd'hui, je donne un cadeau à Philippe et la semaine prochaine, je ne l'aime plus. Alors je dis, redonne-le-moi, redonne-moi ce cadeau. C'est pas possible. Dieu ne fait pas cela et nous ne faisons pas cela. C'est un salut éternel. Éternel. Loué le Seigneur. Sauvé, né de la nouvelle naissance. Si tu es déjà né de nouveau, alors Dieu ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible de revenir en arrière. Pourquoi tu dois grandir? L'enfant est né, ça doit maintenant grandir pour parvenir à pleine maturité. Et ça a besoin de temps. Le né de nouveau, seulement 9 mois, la naissance. Mais de grandir, c'est 90 années jusqu'à la pleine maturité. Ça, c'est le chemin de Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Est-ce que tu penses chacun peut faire ce qu'il veut? Je peux choisir comment j'aimerais servir Dieu. Comment je veux servir Dieu. Ensuite, Dieu dit, alors fais cela. Non, Dieu a dit, a un plan précis pour nous. Nous devons trouver cela dans sa parole. Quel est ce plan? Premièrement, au point Romains 2. Au commencement, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça signifie cela pour nous? Peut-être beaucoup parmi nous, nous n'avons jamais pensé à cela, que nous, les hommes, sont créés d'une merveilleuse manière. Si je vois même mes mains, mes doigts, combien ils sont capables, est-ce que je suis capable avec mes mains, si j'ai plus mon pouce, alors j'ai un problème. Il y a tout qui est fait d'une merveilleuse manière. Aucun animal sur la terre n'est si merveilleux comme les hommes, si intelligent. Tu peux t'en bâtir. Regarde en Allemagne. Et tu peux construire une Mercedes. J'ai encore jamais vu qu'un singe a construit une telle voiture, une fabrique, un restaurant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Personne, aucun autre être que Dieu a créé est comme les hommes, parce que les hommes sont créés d'après à l'image de Dieu, à son image. C'est pour ça que tu es si intelligent. Mais malheureusement, le péché, par Satan, le péché est entré dans l'homme. Ça a été détourné, comme Romains 5 nous a dit, le péché est entré. Et par le péché, il y a la mort qui est entrée. La mort est quelque chose de terrible, mais j'aimerais seulement maintenant parler de l'image de Dieu, c'est pour sa gloire, c'est pour ça. Comme nous sommes tombés déchus, qu'est-ce que Romain nous dit, l'Épître aux Romains? Tous ont péché. Point. Est-ce qui est écrit dans Romains 3? Tous ont péché et. Et ont un manque d'un bon travail. Il manque l'amour. Bien sûr, aussi. Mais ce n'est pas ce que Romains 3, verset 23, nous a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a écrit dans ta traduction, la traduction Sion, tu peux lire s'il te plaît? Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. En allemand, ils ont un manque de la gloire de Dieu. Et à quoi cette image, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Dans Colossiens 1, verset 16, il nous a dit, Christ est l'image de Dieu. Si tu aimerais savoir ce que ça signifie la gloire et comment cette image, cette ressemblance est là, alors tu dois regarder Christ. Le Seigneur est venu pas simplement pour notre salut, mais Jean 1 a déjà dit, personne n'a vu Dieu, mais le premier-né, il est venu et l'a amené à l'expression, plein de grâce, plein de vérité. Si nous le voyons, nous voyons le Père. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ça exprime la gloire de Dieu. Toute sa vie était là pour glorifier le Père. Quel homme! Et si les hommes nous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, Quelqu'un fait, qu'est-ce qu'il voit? Nous avons une dette envers Dieu, mais en quoi? En gloire. Dieu nous a créés à son image. Si glorieux, si merveilleux, et nous devons exprimer la gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul a aussi dit dans 1 Timothée 3, verset 15, qu'est-ce que l'Église? Le mystère de la piété. Et qu'est-ce que c'est? Dit Paul. Paul dit, Dieu révélé en chair, en la chair. Nous disons, nous sommes l'Église, mais qu'est-ce que nous avons exprimé? La chair. Le moi est exprimé dans notre opinion est exprimée dans la chair, nos propres œuvres sont exprimées dans la chair, mais pas que Dieu a été apparu dans la chair. Il n'en vient pas de la doctrine, il en vient de la gloire. Si tu viens à Sion, qu'est-ce que tu veux voir ici? Un bon message. Qu'est-ce que les hommes voient quand ils viennent vers nous? Ah, ils entendent l'évangile. Mais d'entendre, c'est une chose, mais ils doivent voir quelque chose. Ils veulent voir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Qu'est-ce que nous avons à montrer à Sion? Dieu a été révélé, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Oui, vu des anges. Est-ce que tu ne penses pas que personne ne voit? Ah, personne ne voit. Ok, alors je fais ça. Mais les anges voient. Ils regardent. Prêcher aux nations. Nous ne prêchons pas simplement un message, l'évangile. Mais ça doit être visible. Ça doit être de l'esprit. Ça doit être vivant. Dieu doit être révélé, manifesté. Après, c'est facile de pouvoir donner le Seigneur aux hommes parce qu'ils voient. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père et ça me suffit. Et le Seigneur a dit, j'étais si longtemps avec vous et tu ne me connais pas. Bien sûr, oui, je te connais, il lui dit. Mais le Seigneur dit, celui qui me voit, il voit le Père. Moi et le Père sont un. Nous parlons de l'unité, mais notre unité, ce n'est pas un avec lui. Si je parle de l'unité, alors Christian, tu dois être un avec moi. Sinon, alors il n'y a pas d'unité. Est-ce que ce n'est pas juste? Qu'est-ce qui exprime cette unité dans l'Église? On parle de l'unité. Mais l'unité, quelle unité? La mafia est aussi un. Le parti allemand CDU est aussi un. Il y a beaucoup d'unité. Mais quelle est la vérité, la véritable unité d'être un comme toi, Père, en moi et moi en toi, et qui viennent aussi dans cette unité. Ça, c'est une unité particulière, pas humaine, pas faite par les hommes. Les hommes peuvent aussi avoir faire beaucoup d'unité avec pression. Si tu n'es pas d'accord, alors là, il y a la porte. Ça veut dire d'être un. Tu dois être un avec lui. Si tu as une autre opinion dans l'écriture, alors c'est fini. Fini avec toi. On se voit. C'est pas on se revoit, mais on ne se reverra plus jamais. Alors, merci. On ne se verra plus jamais. Je ne peux plus rentrer. Parce que tu n'es pas un avec moi, avec notre opinion. Ça, c'est une unité faite par les hommes, mais l'unité que le Seigneur aimerait avoir, c'est comme son unité avec le Père. Si toi et moi, si nous ne sommes pas un avec le Père, et nous voulons avoir gardé l'unité, combien de temps est-ce que tu peux garder cette unité? Combien de temps elle peut rester? Un mois? Une année? 10 années? 10 ans? Ok, peut-être 30 ans? Une telle unité ne peut pas durer éternellement. C'est une unité particulière. Et Dieu, son édifice, quelque chose de différent. Je suis désolée, j'ai parlé trop longtemps. Pas grave. C'est pour ça. Parce que nous avons un manque à la gloire. La gloire, c'est l'expression de cette merveilleuse unité. Loué le Seigneur. Dieu nous a créés à son image, à son image, à sa ressemblance. Combien est-ce que les hommes sont capables? Regarde ici à Stuttgart. Vous avez tant bâti de bâtiments si beaux. Est-ce qu'un animal ou une fourmi peut construire quelque chose, une telle chose? Non, seulement les hommes, mais les hommes construisent aussi des choses qui ne sont pas belles. Et leur vue est l'expression du diable. Pour ça que l'ennemi aimerait, il est les hommes, parce que les hommes, quand ils voient les hommes, ils pensent à Dieu. Parce que nous sommes créé à son image, à sa ressemblance. Nous avons été créés, faits. Mais après que le péché soit entré, alors qu'est-ce que nous exprimons? Comment vous comprenez cela? Et ensuite Dieu a dit, et ils doivent régner. Comment est-ce qu'ils règnent? Sur tout ce que Dieu a créé, nous devons régner. Et même après que Dieu ait tout tué par le déluge, seulement Noé et sa famille, après le déluge, Noé a laissé ses animaux libres. Qu'est-ce que Dieu lui aura dit? J'ai fait tous ces animaux ainsi afin qu'ils te craignent tous. Dieu n'a jamais changé son opinion. Est-ce que tu peux te représenter cela? Nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la domination des animaux sur la terre. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Nous devons régner, et particulièrement contre Satan. C'est ce serpent. Nous devons marcher sur sa tête. C'est vraiment vrai. Et ce que nous devons voir aujourd'hui, et on peut repenser à ça quand on va à la maison de Colossiens 1, Christ est l'image de Dieu. Et aussi le nouvel homme que le Seigneur a créé par la mort et la résurrection, ce nouvel homme, il porte la ressemblance de celui qui l'a créé. C'est exactement ainsi. C'est pour ça que nous devons être remplis avec Christ. Nous devons expérimenter Christ, gagner Christ. L'Église, pas simplement l'Église, le corps de Christ, mais Paul ne s'arrête pas là, mais la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Si l'Église n'est pas remplie avec Christ, alors qu'est-ce que nous exprimons? Quelle est l'expression de l'Église? C'est pas si simple, un lieu, une église. Je me souhaiterais que ce soit plus simple. Ce serait si simple. Mais ce n'est pas ainsi. Nous bâtissons ce qui est céleste. Quelque chose de céleste. Et directement après que Dieu ait sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il leur a dit directement, « Si vous gardez mes paroles, alors... vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes la propriété du Seigneur. L'Église n'est pas ta possession. Ça lui appartient. Le Seigneur a dit, je veux bâtir mon Église. Les portes du séjour des morts ne le prévaudront point, mais si c'est ton église ou mon église, alors le diable se réjouit. Le diable va dire, non, c'est mon église. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit la synagogue des Juifs? À la fin, il y a tant de problèmes. Sache aussi, dans le service du Seigneur, j'ai vu ça les dernières 60 années. Sans fin. Sans fin. Nous sommes créés à son image. Pour ce merveilleux but, Dieu aimerait un royaume, mais pas simplement un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire les sacrificateurs. Sacrificateurs sont si importants. C'est un royaume de sacrificateurs. Mais tout le peuple était tombé déchu à la fin. Ils ont murmuré. Ils ont même porté des idoles qu'ils avaient pris d'Égypte. Ils avaient cachées. Et à la fin, ils ont même demandé d'Aaron d'avoir un âne. Un veau d'or. C'est celui qui nous a sauvés d'Égypte. C'était terrible. Peu de temps après, est-ce que tu peux te représenter? Ils ont déjà ces pensées diaboliques. Les hommes se changent si vite. Pour rendre l'histoire longue courte, Dieu a dit à Moïse, va, retourne vite. Ton peuple fait des choses impossibles. Et qu'est-ce que Moïse a fait, il a tiré une ligne. Il a dit, ceux qui sont pour Dieu, alors qu'ils viennent de ce côté, au Moïsetier. Et seulement les Lévites sont venus sur ce côté. Les autres, pas. 12 tribus, seulement la tribu de Lévi. Et quelle était la récompense? Le sacerdoce. Dieu aimerait un royaume de sacrificateurs de tout le peuple. Et là, ça se réduit de 12 tribus à seulement une tribu était choisie. Et l'histoire nous montre que de cette tribu de Lévi avec le temps, les Lévites sont aussi tombés déchus. Et à la fin, seulement la famille de Tzadok. Est-ce que le frère Tzadok est là? Pas encore. De Paris? Il a un bon nom, il s'appelle Tzadok. Si nous lisons Ézéchiel 44, dans le royaume à venir, seulement les fils de Tzadok ont le droit de venir à lui et de le servir. C'est un privilège. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, je vous ai donné le sacerdoce en don. C'est un don particulier. Et les hommes ne veulent pas. Ils pensent seulement à l'Église catholique, il y a des sacrificateurs ou des prêtres. C'est des prêtres faux. Non. Nous devons tous être sacrificateurs. Ah, c'est l'Ancien Testament. Qui c'est qui dit cela? Alors nous allons à 1 Pierre 2. Pierre a répété si clairement ce que Exode, et c'est écrit dans Exode 19. Est-ce que tu peux lire cela, s'il te plaît? Un Pierre 2, verset 5, 4, 5, pression. Un Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Continue de lire. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, ça suffit. Qu'est-ce que ce chapitre nous montre? Premièrement, il a dit, nous sommes des pierres vivantes, nous ne sommes pas des pierres mortes. Dieu ne bâtit pas une église morte, à part Sardes. Nous sommes tous des pierres vivantes. Une maison spirituelle, pas une maison physique. L'église n'est pas une belle salle. Tu peux avoir la salle, ça ne joue pas un rôle. Nous bâtissons une maison spirituelle, mais en même temps, un saint sacerdoce. Pour donner des messages chaque dimanche. Non? pour amener des offrandes spirituelles. Et beaucoup m'ont dit, ah, les offrandes, c'est l'Ancien Testament. Bien sûr, nous n'amenons pas des taureaux ici, ou des chèvres, ou un mouton, un agneau. Sinon, on aurait affaire dans l'Église. Non. C'est des offrandes spirituelles, parce que Christ est la réalité de toutes ces offrandes. Il est notre holocauste, notre offrande de fleurs de farine, notre offrande de paix, notre offrande de, par élévation, par adulation, notre offrande pour le péché, pour les transgressions, la libation. Tu connais seulement Christ est mon sauveur, mon rédempteur. Non. Le Seigneur est notre holocauste. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça veut dire le Seigneur, avec toute sa vie, il est là pour la volonté du Père. Qu'est-ce qu'en est-il de nous? Pour la volonté du Père, ok. Je sers Dieu certaines heures dans la semaine, mais au travail, combien d'heures? 40. Je ne dis pas que tu dois arrêter de travailler. Mais est-ce que tu sais, au travail, tu peux gagner Christ? Tu fais cela pour la gloire de Dieu. Et là, tu peux amener Dieu à expression. Tu peux l'exprimer. C'est pour ça que Colossiens dit, c'est égal à ce que vous faites en œuvre ou en parole. Faites cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu le Père. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui. Même dans la famille. En tant que homme ou femme, on doit vivre pour la gloire de Dieu. S'il y a tout le temps des disputes, c'est sûrement pas là. L'expression de la gloire. Nous est le Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et l'Église est une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Ah, oh, c'est l'Ancien Testament. Non. J'aimerais vous dire tout. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement de tout ce qui est dans l'Ancien, qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau. Seulement, tout ça dans l'Ancienne Alliance, dans les Saintes Écritures, c'est des ombres et ça montre Christ. Et Christ est la substance et la réalité de tout ce qui est écrit là. Mais ce qui est plus important, ce que Dieu aimerait avoir avec son peuple, c'est un royaume de sacrificateurs. Et Sion, ça veut dire Dieu bâtit son royaume de sacrificateurs, l'Église. Dans Matthieu 16, quand le Seigneur a dit, je veux bâtir mon Église, ce n'est pas simplement l'Église d'après nos représentations, mais il aimerait avoir Sion, la ville du grand roi, la Jérusalem céleste, ce que nous avons lu. Et le Seigneur est cette pierre angulaire, est Sion, c'est une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous devons lire tout ensemble. Ce n'est pas rien d'autre. Pour ça, dans ce chapitre, il est dit, Christ est la pierre angulaire. Exactement comme dans Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Le Seigneur est le fondement et la pierre angulaire. Et qu'est-ce que nous bâtissons? Qu'est-ce que c'est l'Église? Les hommes bâtissent tant de choses d'après leur représentation. Mais l'Église, c'est un saint sacerdoce. Un royaume de sacrificateurs. Ça ne peut pas être différent. Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails, mais le Seigneur va vous montrera. Je crois que ces versets montrent si clairement. Et dans l'Ancien Testament, Ils avaient Aaron comme souverain sacrificateur. Est-ce que tu connais le Seigneur comme souverain sacrificateur? Tu le connais seulement comme le Sauveur, même comme ta vie. Et quand tu continues, ah, et le Seigneur est ma vie. Pourquoi? Et après, qu'est-ce que le Seigneur fait là, dans les cieux? Il écoute la musique des anges, le cœur des anges. Est-ce que tu penses que le Seigneur aime le cœur des anges, là? Non. D'un côté, il est le souverain sacrificateur pour nous et il intercède en tout temps. Et il aimerait nous sauver parfaitement. Qu'est-ce que ça signifie cela? Il aimerait nous sauver parfaitement. Dans Hébreux 7, à quoi cela se ressemble? Est-ce que tu es sauvé? Oui. Entièrement, complètement sauvé? Personne pense à cela. Seulement sauvé, mais ils ont tant de problèmes. Dans les Écritures, il y a un mot qui dit de la transformation. De gloire en gloire, d'être transformé à son image. Pourquoi nous avons été créés? Et dans 2 Corinthiens 3, 18, 17 et 18, ça c'est le salut. Un salut qui continue juste. D'être pleinement sauvé. Et nous pensons, il est seulement ainsi là en tant que le souverain sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek. Mais Apocalypse 1 nous dit, il est le souverain sacrificateur qui marche parmi les chandeliers d'or. Est-ce que tu penses, il est seulement là-haut? Il n'est pas là, il ne marche pas. En tant que souverain sacrificateur, c'est pour ça que l'Église est un chandelier d'or. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est le chandelier d'or? Dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse? Dehors, quelque part? Dans la cour extérieure? Non. Il est dans le lieu saint. Et chacun peut aller pour servir. C'est le souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Il dit, c'est la chose principale, le point capital. Quel est le point capital là? Nous avons un tel souverain sacrificateur. Il est dans la dans le tabernacle céleste qui est créé par des mains d'hommes. Non, non, pas fait avec des mains d'hommes. Est-ce que c'est pas assez clair pour nous tous? Marita? Amen. Mais où est le Seigneur? Si le Seigneur nous ouvre les yeux et nous lisons ses paroles, alors c'est si clair jusqu'à Apocalypse chapitre 1. C'est pour ça que l'Église est un chandelier d'or. Et le Seigneur est le souverain sacrificateur qui sert ce chandelier d'or. Il aimerait journalièrement ajouter de l'huile. Ok. Je crois que le temps est passé. Je suis désolée. Et ce but dans le plan de Dieu ne va jamais se changer. Dieu ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'il parvienne à ce but avec nous. Pas forcément avec tous, mais avec un reste. Dieu n'a pas besoin du nombre, mais il a besoin des fidèles. Dans l'Ancien Testament, il a aussi dit, et Paul a aussi dit dans l'Épître aux Romains, bien que le peuple d'Israël était comme le sable dans la mer, il y a seulement un reste qui sera sauvé. pas que nous sommes quelque chose de particulier. Non, c'est sa grâce. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a montré cela, mais nous l'a montré. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Obéir. C'est ce que nous faisons là. Nous ne sommes pas des hommes particuliers. Non. En tout cas pas. Mais nous voulons seulement faire ce que le Seigneur veut. Nous n'avons pas de choix. Ou est-ce que tu as un autre choix? Nous n'avons pas de choix. Nous ne sommes pas contre les autres. Ils ne nous ont pas souvent dit, les autres, si les autres ne veulent pas, alors c'est leur choix. Ne force personne d'amener des offrandes au Père. Nous ne devons pas nous forcer les uns les autres. Ça ne va pas. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce de faire cette volonté. Et le point là est que Dieu ne veut pas changer son plan. Même si personne n'aimerait l'avoir, il y a seulement une tribu et à la fin même seulement une famille, les familles de Tsadok. Alors Dieu a besoin tout de même des sacrificateurs. OK? Louez le Seigneur.